Alors pour la prédication de ce matin, nous allons continuer notre série de prédications sur le sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt au bout. Je crois qu'il en reste, aujourd'hui compris, il en reste 3. Ce sermon sur la montagne, c'est les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Et dans ce sermon, Jésus s'adresse à ses disciples, il les réunit, il leur parle, pour leur expliquer justement qu'est-ce que cela veut dire être un disciple du Seigneur. En gros, un disciple du Christ, c'est une personne qui cherche à ressembler toujours plus à Christ lui-même. C'est comme cela que les disciples de Jésus sont appelés à être comme des lumières dans ce monde. Des lumières parce qu'ils ressemblent à celui qui est la vraie lumière du monde, le Seigneur. Et Jésus explique dans ces chapitres, il explique très concrètement ce que cela implique dans la vie de ceux et celles qui sont ses disciples. Il explique ce que cela implique dans notre rapport à la parole de Dieu, dans nos relations, entre nous notamment, dans la pratique du pardon aussi également. Aussi ce que ça implique dans notre rapport personnel, notre relation personnelle à Dieu, avec la prière, avec l'offrande. Et finalement, dimanche dernier, nous avions vu qu'en fait, ce que Jésus demande, ce n'est pas de changer nos actes, mais c'est avant tout de changer notre cœur. Le cœur comme centre de nos motivations, de nos désirs, de notre volonté. En changeant notre cœur, c'est-à-dire nos motivations, et en faisant justement de Dieu, de sa volonté, de son règne, notre motivation première de vie, eh bien, cela vient ensuite transformer toutes nos pensées, toutes nos paroles, tous nos actes, tous nos autres buts que nous cherchons dans la vie. En calquant notre volonté sur celle de Dieu, avec l'aide de son Saint-Esprit, eh bien, nous pourrons alors ressembler toujours plus à Christ. Nous pourrons le refléter dans ce monde. Nous pourrons être des lumières qui reflètent la vraie lumière du monde, Jésus. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans les mois qui précèdent. Mais accepter de changer notre cœur, nos motivations, eh bien, ça doit impacter sur notre manière de voir aussi les autres et de voir ce monde. Ça doit changer notre comportement avec ceux qui nous entourent. Il nous faut apprendre à regarder les autres avec le regard de Dieu. Et c'est justement de ça dont Jésus parle dans la suite de ce sermon sur la montagne, et je vous invite à lire ensemble au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, les versets 1 à 12. « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et où on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. » Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever cette sciure de ton œil alors qu'il y a une poutre dans le tien ?» Hypocrite. Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne piétinent vos perles et que le chien ne se retourne contre vous pour vous déchirer. Demandez, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain ? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. J'aimerais ce matin voir avec vous 3 choses que Jésus nous enseigne dans ce texte. Il y aurait peut-être beaucoup d'autres à en dire, mais c'est les 3 que j'ai eu à cœur de vous partager ce matin. Premièrement, Jésus nous montre que si nous ne faisons pas de Dieu et de sa volonté notre motivation première, eh bien, notre regard sera faussé. Si je ne me laisse pas transformer par le Saint-Esprit, si je ne cherche pas à travailler avec le Saint-Esprit à ce changement en moi, je ne pourrai pas être un disciple du Christ pertinent pour ce monde et pour les autres. En effet, si je ne change pas moi avant tout, comment espérer pouvoir aider à la transformation des vies de ceux qui m'entourent ? L'exemple le plus frappant, c'est celui du pardon. J'ai vu, j'ai connu dans mon ministère des chrétiens très respectables, très respectés, des chrétiens même en position de responsabilité dans des églises, je ne parle pas d'ici, vous inquiétez pas, mais qui pourtant semblaient comme aveuglés sur la situation de leur communauté à cause de l'état de leur propre cœur. J'ai connu un homme qui voulait aider son église à changer, qui voulait aider les autres croyants à suivre ce que Jésus désire comme bon pour ce monde, mais qui n'y arrivait pas du tout. Tout ce à quoi il travaillait, tout ce à quoi il encourageait, c'était de bonnes choses, mais il y a quelque chose qui clochait. Ça ne portait pas de fruits et il semblait comme aveuglé sur les besoins spirituels des autres. Alors j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à savoir quelles étaient ses motivations premières, quel était l'état de son cœur à lui, et on a discuté. Et en discutant, on en est venu à parler des personnes de son église qui étaient en conflit les unes avec les autres. Je lui ai alors demandé comment est-ce qu'il accompagnait ces personnes dans une restauration de leur relation, comment est-ce qu'il les guidait vers le pardon que Dieu désire pour nous. Et la réponse m'a à la fois effrayée et en même temps éclairée. Il m'a répondu: c'est pas de pardon dont ils ont besoin. Il suffit qu'ils acceptent de se supporter et de travailler ensemble pour que l'Église et les autres aillent bien. Et à partir de là, notre discussion m'a fait comprendre une chose. Si cet homme, de bonne volonté, ne se souciait pas du pardon, c'est parce qu'il n'avait pas réellement vécu le pardon avant tout. Pour lui-même, dans son cœur. Cet homme avait compris l'importance du pardon, il le prêchait également, mais il ne l'avait pas vécu, reçu. Il n'avait pas été transformé dans son cœur. Et donc forcément, il ne pouvait pas aider les autres à ce niveau-là. Le problème de son cœur l'empêchait de voir le réel problème du cœur des autres. La poutre dans son œil l'empêchait de bien discerner la nature du grain de sciure dans l'œil des autres. Si je n'ai pas vécu, reçu, accepté pour moi-même le pardon de Dieu, si je n'ai pas été transformé dans mon cœur par cet acte d'amour incroyable de Dieu envers moi, qu'est le pardon, comment espérer pouvoir regarder les autres avec ce même regard d'amour que Dieu a posé sur moi et qu'il désire poser sur eux et sur elles? Si j'ai vécu au plus profond de mon cœur ce pardon de Dieu pour moi, je comprends alors que je ne mérite rien. Ce que je méritais, c'était le jugement. C'était d'être abandonné à mon sort. Je ne méritais pas d'amour, encore moins de pardon. Mais Dieu me l'a offert, en cadeau. Je ne méritais que le jugement, à la place, j'ai reçu le pardon. Si j'ai réellement vécu ça, si le Saint-Esprit a transformé mon cœur par la puissance du pardon de Dieu, je ne peux plus regarder les autres avec des yeux qui condamnent. Je ne vaux pas mieux qu'eux ou qu'elles, j'étais comme eux, méritant le jugement. Mais à la place, j'ai reçu l'amour et le pardon. J'étais comme eux. Alors je dois souhaiter pour eux ce que moi, j'ai eu la grâce, c'est-à-dire le cadeau gratuit de recevoir. Je dois souhaiter pour eux ce que je souhaite pour moi. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Ou dit autrement, à un autre endroit des évangiles, aime ton prochain comme toi-même. Si tu désires pour toi-même vivre le pardon de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, alors prie et agis pour que Dieu le fasse aussi dans la vie de ceux et celles qui t'entourent. Je ne peux pas juger ou condamner les autres à cause de ce que Dieu a fait dans mon cœur et dans ma vie. À cause aussi du fait que je suis un disciple du Christ qui veut suivre son maître, qui veut lui ressembler, qui veut être transformé à la ressemblance du Christ par l'action du Saint-Esprit. Et ce Jésus que je veux suivre a dit au coupable que je suis, je ne te condamne pas. Alors à sa suite, je ne peux pas condamner. Pourquoi est-ce si important de faire du règne de Dieu dans ma vie ma motivation première ? Parce que sans ça, je ne serai pas transformé par le Saint-Esprit à la ressemblance du Christ, pas à pas, chaque jour un peu plus, tout au long de ma vie. Je ne pourrai pas être un ou une disciple du Christ. Je ne pourrai pas regarder les autres avec le regard de Dieu, un regard qui ne condamne pas, mais qui aime et qui pardonne. Et justement, une deuxième chose que nous apporte le Christ dans ce texte, c'est que le regard de Dieu est un regard qui pardonne des coupables. Et donc, s'il ne condamne pas, il reconnaît pourtant la culpabilité. Le regard de Dieu sur les humains, c'est un regard d'amour, mais un amour lucide sur l'état de notre cœur. Jésus me dit de ne pas jeter mes perles aux cochons ou aux chiens de peur qu'ils ne me déchirent ou qu'ils les piétinent. Et cette perle que je peux offrir, apporter, c'est mon témoignage, c'est mon amour. Cet amour que j'ai reçu de Dieu et cette bonne nouvelle du pardon en Jésus-Christ que j'ai pu vivre dans ma vie avant tout. Cette perle de l'amour et du témoignage, si elle a réellement imprégné ma vie, je vais pouvoir, je vais vouloir, je vais devoir la désirer aussi pour les autres. Je vais donc travailler à leur montrer, à leur transmettre cette perle. Mais à qui ? Est-ce que tout le monde est prêt à recevoir cette perle ? Eh bien, dans ce texte, Jésus m'affirme que non. Certains sont prêts pour recevoir l'amour et la bonne nouvelle que j'ai reçue de Dieu, mais d'autres n'y sont pas prêts. Ils le rejetteront, ils moqueront mon témoignage, ils profiteront de mon amour, ils écraseront mon amour. Ils me feront du mal en réponse à l'amour et au témoignage que je leur aurai montré. Et ça m'enseigne deux choses. Ça m'enseigne, premièrement, que je ne pourrai jamais changer le cœur des autres. Tout l'amour et toute l'intensité de mon témoignage ne pourront changer le cœur de personne. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse changer le cœur des humains. Cette perle d'amour et de témoignage, ce n'est qu'un outil, un ingrédient qu'il désire utiliser. Mais c'est le Saint-Esprit et lui seul qui sauve et qui transforme une vie. Je ne peux pas forcer le cœur des gens. Et ça me fait alors comprendre que je ne dois pas distribuer cette perle dans tous les sens. Mais il me faut chercher à regarder les autres avec le regard de Dieu. Il me faut chercher si Dieu est à l'œuvre dans le cœur d'une personne ou non. Il me faut demander au Saint-Esprit de me montrer les cœurs qu'il est en train de travailler et ceux qui le rejettent pour le moment. Un texte de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 37, nous dit que certains ont été maltraités ou persécutés à cause de leur témoignage, et ce texte précise que ce monde n'était pas digne de ses témoins. C'est-à-dire que ceux qui ont rejeté le témoignage ou maltraité ses disciples n'étaient pas dignes de cette perle. Ils n'auraient pas dû la recevoir. Elle ne leur était pas destinée. Ils ne la méritaient pas. Ils ne méritaient pas ces témoins qui sont venus. Alors nous savons que nous ne méritons rien, nous-mêmes, mais c'est par le travail du Saint-Esprit en nous que nous avons pu recevoir cette perle qui nous est venue des autres. Et si nous savons qu'il peut arriver de souffrir à cause de cette perle d'amour et de témoignage, eh bien Jésus nous appelle dans ce texte à ne pas rechercher la persécution, mais plutôt à discerner les cœurs de ceux et celles qui nous entourent. Je ne dois pas juger ou condamner, certes, mais après avoir été transformé moi-même dans mon cœur, je dois rechercher le discernement de Dieu, le regard de Dieu sur les autres. Et ce discernement, ce regard, encore une fois, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous l'apporter. Et c'est justement la troisième chose que Jésus nous enseigne dans ce texte, en tout cas que j'aimerais vous apporter ce matin. Faire du règne de Dieu en moi ma motivation première. Ok. Être transformé par l'amour et le pardon de Dieu. Ok. Regarder les autres avec le regard de Dieu. Ok. Discerner le cœur de ceux et celles qui m'entourent et le faire dans la prière. Ok. Mais dans toutes ces choses, vous l'avez vu, on en revient toujours au même point. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse réaliser tout cela en moi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse transformer mon cœur et ma vie, qui puisse changer mes motivations, qui puisse m'aider à faire du règne de Dieu ma motivation première. Les efforts, la fidélité qu'il me demande, ce sont les ingrédients qu'il désire utiliser pour tout ça. Mais je ne fournis que les ingrédients. C'est lui qui réalise l'œuvre de Dieu en moi. Si je suis appelé à me nourrir de la parole de Dieu quotidiennement, si je suis appelé à passer du temps avec Dieu dans la prière quotidiennement, si j'ai besoin de passer du temps aussi avec mes frères et sœurs en Christ, pour être encouragé par eux et pour pouvoir moi aussi les encourager, si je ne dois pas faire de la possession mon maître, mais rechercher la volonté de Dieu même dans ma prospérité matérielle, si je dois dans ma vie mettre en place des habitudes de vie qui donnent la première place à toutes ces choses, c'est pour fournir au Saint-Esprit les ingrédients qu'il désire pour que lui me transforme à l'image du Christ. Ces ingrédients sont nécessaires, mais je ne changerai jamais rien en moi-même, par moi-même. Et les autres pourront m'aider, ils pourront apporter des ingrédients pour m'aider, mais les autres ne changeront jamais rien en moi-même. C'est le Saint-Esprit, et lui seul, qui me transforme pas à pas, petit à petit, tout au long de ma vie. C'est également le Saint-Esprit qui peut me donner le discernement sur le cœur de ceux et celles qui m'entourent. C'est lui qui travaille les cœurs. Je ne changerai jamais le cœur de qui que ce soit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui fasse l'œuvre de Dieu dans les cœurs. Et là encore, eh bien, les perles d'amour et de témoignages que Dieu désire que j'apporte aux autres, ce sont des ingrédients que le Saint-Esprit désire utiliser pour que lui et lui seul transforme les autres, pas à pas, petit à petit. Je dois apporter mes perles d'amour et de témoignages, mais là où le Saint-Esprit me le demande, là où il le désire, là où il est à l'œuvre, et donc dans les cœurs de ceux et celles qui y sont prêts. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse me donner ce discernement, vu que c'est lui qui est à l'œuvre dans les cœurs. Et c'est là le plus fou, c'est que même à ce niveau-là, c'est Dieu qui fait tout. Je ne peux pas rechercher ou obtenir le Saint-Esprit par moi-même. Il y a un personnage dans la Bible qui est venu voir les apôtres pour leur demander « Combien ça coûte pour avoir le Saint-Esprit ? Combien ça coûte ? Je le veux. » Mais il n'y a que Dieu qui puisse me le donner. Il me faut alors le lui demander. Il me vient de lui. Mais peut-être que j'ose pas, parce que j'ai peur. Peur de lui demander d'agir en moi par son esprit, peur d'être changé, ou peur d'être déçu, peur d'être prétentieux en faisant cette demande. Alors Jésus me rassure dans ce texte. Si mon cœur désire réellement faire du règne de Dieu en moi ma première priorité de vie, je vais désirer demander à Dieu ce que lui désire pour moi. Et Dieu qui m'aime, plus qu'un père n'aime son enfant, me donnera les bonnes choses que je lui demande et qu'il a prévues pour moi. Et ces bonnes choses dont parle Jésus, dans l'évangile de Luc, elles nous sont expliquées un peu plus en détail que dans l'évangile de Matthieu, et je vous lis ces deux textes en parallèle l'un de l'autre. Je vous relis ce verset que nous avons lu ce matin dans Matthieu chapitre 7. « Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Et voici ce même passage, mais plus précis, dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, au verset 13. « Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Voilà la bonne chose que Dieu a en réserve pour nous. Soyons donc rassurés par cette promesse du Christ. Soyons des disciples confiants dans leur maître, dépendants de leur maître. Faisons du règne de Dieu notre motivation première dans notre vie et demandons à Dieu d'agir en toutes choses, en nous-mêmes, dans les autres, par son esprit, selon ce que lui a prévu pour nous et pour ce monde. Amen.